de contradictions internes dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever de nos nosographies psychiatriques qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Salut.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, dans On n'est pas des cadeaux, on va parler de plein de notions un peu théoriques et tout ça. Mais l'histoire, d'abord, ça commence par un article. Un article qu'on a trouvé sur un site des médias libres, dont on reparlera tout à l'heure. Et cet article, il va faire la comparaison entre une personne transgenre et une personne qui aurait transitionné de race. C'est-à-dire une blanche qui dit être maintenant noire et donc transraciale. Ça se passe en ce moment, enfin c'était en 2015 aux USA, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui pour d'autres personnes et c'est très présent sur les réseaux sociaux. Et donc l'argumentaire de cette comparaison, elle réside dans cette analogie entre race et genre, c'est-à-dire que s'il existe des personnes transgenres, alors pourquoi il ne pourrait pas exister des personnes transraciales ? Alors, on n'est pas des cadeaux, on avait envie de réfléchir et d'argumenter sur cette question. Est-ce que vraiment on peut comparer la race et le genre? Alors pour ça, il va falloir se coltiner des petites définitions, parce que c'est pas évident toutes ces notions. Alors on va définir effectivement les notions de race, de genre, de transracialisme. Et puis on va aussi parler du contexte français dans lequel s'est trouvé dans le contexte militant de gauche français dans lequel a été traduit ce texte. Et puis ensuite on va donner des argumentaires pour contre cette analogie entre race et genre. Et avec aussi des petits textes que des personnes aux États-Unis ont pu produire, des vidéos, des textes. En tout cas, tout ça va pouvoir être retrouvé sur le blog de On n'est pas des cadeaux, toute notre petite référence. Voilà, je vais enchaîner avec une petite virgule pour faire en guise d'introduction. Et donc, en guise de première partie, il va nous falloir définir toutes ces petites notions. Et notamment, on va pouvoir parler de « mais alors, qu'est-ce que la race ?»
Mais oui, qu'est-ce que la race ? Alors, la race, ça a eu vachement de différences. Et il y a un gars qui s'appelle Papendiaï qui a écrit sur ce qu'on appelle la condition noire. pour une histoire des populations noires en France, et lui, il explique ça comme ça. C'est comme... voilà sa citation. « Il est donc très important de distinguer l'objet de la catégorie en tant qu'objet. La race n'a aucun sens, en tant que catégorie, elle existe. La notion de race est une catégorie valide d'analyse sociale, à l'instar d'autres catégories sociales comme la nation ou le genre. Comme le souligne Thomas Holt, il s'agit aussi de notions historiquement et politiquement construites, sous-tendues par des relations de pouvoir qui ont changé dans le temps. Les races n'existent pas en elles-mêmes, mais en tant que catégorie imaginaire, historiquement construite. Les circonstances sociopolitiques donnent sens aux délimitations raciales. Le facteur mélanique, ce qu'on appelle le pigment de la peau, est un fait de nature, mais son interprétation a été un fait de culture. Les catégories raciales ont varié selon les moments et les lieux, en fonction de différents besoins politiques et sociaux. Il ne va pas de soi que la couleur de peau puisse être un marqueur social. Ce fait est le produit de circonstances historiques particulières et réversibles. Il est d'ailleurs souhaitable qu'un jour la couleur de peau n'ait pas plus de signification sociale que la couleur des yeux ou des cheveux. On n'en est pas là. Tant il est vrai que les distinctions raciales sont très profondément ancrées dans les imaginaires des personnes et qu'elles ont fondé, en proportions variées mais sans jamais être absentes, les rapports qu'ils entretiennent entre eux et elles. En écrivant cela, j'ai bien conscience d'une difficulté supplémentaire propre à la France que je note au passage pour y revenir ultérieurement. Le modèle républicain s'est construit sur une figure abstraite de la citoyenneté, théoriquement indifférente aux particularités de sexe, de couleur de peau ou autre, de telle sorte que la notion de race fait figure d'épouvantail idéologique et politique. Mais cette figure abstraite bien française n'a pas toujours assuré une lutte effective contre les discriminations ethno-raciales. On pourrait même ajouter qu'elle s'en est parfois accommodée en jetant sur elle un voile pudique.
Alors, un autre terme
qu'il faudrait définir dans ce débat, c'est celui de transracial en fait, parce que on le répète beaucoup dans ce contexte parce qu'il reprend cette analogie entre genre et race, mais en fait il n'est pas du tout utilisé de la bonne façon ici, puisque ça a un sens sociologique très précis, le terme de transracial, et ça va désigner un contexte d'adoption, où des enfants sont adoptés par une famille qui est d'une race, entre guillemets, différente de la leur. Donc on les décrit comme des personnes adoptées dites transraciales, puisque leur race sociale diffère de celle de leurs parents.
Et puis genre, bon alors moi c'est moins concis que vous, mais alors genre c'est apparu, cette notion elle est apparue dans les années 50 et notamment dans les milieux psychiatriques et médicaux aux États-Unis. Et on peut y citer des personnes pas très recommandables, mais comme John Money. John Money, c'est un endocrino, psy. Bon, en tout cas, son histoire, c'est notamment, il est assez connu pour cette histoire qu'il y a un jour une famille qui a amené un de ses garçons qui s'était fait circonciser, mais ça avait pas marché et que du coup, il allait être stérile. Et du coup, John Money a dit bon, on peut en faire une fille, élever-le en fille et tout va bien se passer. Et du coup, ça a beaucoup été... en tout cas, il a beaucoup travaillé sur ces trucs de rôle de genre. Et bon, après, effectivement, cette personne a été élevée en fille, mais il n'a pas dit la suite de l'histoire quand même, John Money, c'est-à-dire que cette personne, elle a quand même, au final, transitionné plus tard. Puis, bon, elle s'est suicidée. Enfin, bon, bref, je pense qu'elle a eu une vie pas facile. Mais du coup, il a abordé ces trucs de rôle de genre, de dire que le genre était quelque chose de construit par rapport au sexe biologique et qu'on pouvait du coup passer d'un genre à un autre. Il y a aussi Stoller, qui est pareil, un psychiatre pas très recommandable non plus, qui a parlé d'identité de genre. Et du coup, qu'il y aurait ce rôle de genre qui est un peu l'expression... public de l'identité de genre et l'identité de genre qui serait un peu l'expression privée du rôle de genre. Et Stoller, il n'est pas très recommandable parce que c'est lui notamment qui a classifié les trans en deux catégories à l'époque, du coup les trans primaires, qui seraient les personnes qui auraient ce sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être né dans le bon corps depuis vraiment tout, tout petit, et qui aussi seraient hétérosexuels dans leur genre d'arrivée, Et puis il y aurait les trans secondaires, c'est bon, ceux qui seraient pas vraiment, bon voilà, qui n'iraient pas vers l'hétérosexualité, qui ne correspondraient pas aux normes de leur genre d'arrivée, etc. Voilà, mais ça c'est en aparté. Et donc il y a cette idée que le genre c'est quelque chose qui est une identification un peu personnelle de ce qu'on peut avoir autour de nous, dans les tout ce qu'on va avoir comme vision autour de nous du genre, de qu'est-ce que sont les êtres humains. Ben, on va faire tout un mix nous-mêmes et puis on va en trouver notre expression de genre. C'est une perception interne. Ensuite, ça c'est bon pour tout ce qui est la psychiatrie, etc. Et puis dans les années 70, ce concept il est utilisé par les féministes pour montrer que les inégalités entre hommes et femmes, elles sont pas du tout issues de facteurs biologiques, comme on a pu le dire, de genre, non, mais les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Bon, elles vont dire non, en fait c'est des facteurs sociaux, culturels et économiques, il n'y a rien de biologique là-dedans. Et bon, en gros, le modèle, ça devient un peu qu'il y a des sexes biologiques qui seraient naturels, auxquels on va accoler des genres qui seraient culturels. Et puis, parfois, il y a des ratés entre le biologique et le social, et paf, ça donne un peu les personnes trans. Sauf qu'ensuite, c'est un résumé, hein, je caricature. Sauf qu'ensuite, quand même, eh ben, il y a des féministes, et notamment des féministes des sciences, qui vont remettre en question également le côté naturel de la distinction entre les sexes biologiques, et notamment Anne Foster Sterling, qui va dire, oui, bah, qu'est-ce qu'on fait des intersexes? Et donc, qui va venir remettre en question la distinction homme-femme, enfin, du côté naturel du sexe biologique, en disant, en vrai, c'est un continuum, on ne peut pas savoir où s'arrête la catégorie homme et où commence la catégorie intersexe, ni où s'arrête la catégorie femme et où commence la catégorie intersexe. Donc il y a plutôt un continuum. Voilà, tout ça pour dire que c'est encore en cours de réflexion et tout ça, mais que c'est pas si figé et voilà quoi.
Et juste un petit point, c'est quoi les féministes des sciences?
Quand je dis féministe des sciences, c'est parce qu'Anne Foster Sterling, c'est science. Je sais plus exactement qu'est-ce qu'elle est, biologiste, je crois. Et elle se dit comme ça. Enfin, elle est présentée comme ça.
I'll get out of all your boxes, I'll get out. You can't hold me in these chains, I'll get out.
Alors c'était pour faire ce résumé de ces notions qu'on a quand même résumées en pas très longtemps, des énormes notions.
Et que maintenant on va se retrouver plutôt dans la partie un peu du contexte de traduction aussi de ce texte de départ. Où en fait, c'est quand même une spécificité assez d'un milieu politique quand même assez considéré comme extrême gauche, de militants qui où ceux qui désignent la race la décrivent comme une réalité vécue sont désignés comme des racialisateurs et donc ceux qui font exister le racisme, car on comprend toujours le racisme comme un discours et pas une réalité sociale. Dans ce cas, on continue à penser que le capitalisme est le seul système d'oppression existant. Racialisateur, c'est bien des personnes spécifiques qui utilisent ces termes, c'est pas nous. Comme antiracialisateur. Et donc une petite lecture d'un texte.
Racialisateur est presque toujours un confusionniste. Il feint de partager des combats marxistes, le pire, le FUQP ou libertaire, les mots sont importants, mais n'a pour but réel que d'accroître les divisions au sein du prolétariat et des classes moyennes radicalisées. Le racialiste joue sur un sentiment de culpabilité de l'homme blanc, l'idée que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais trahir sa classe d'origine, Il aura beau se prolétariser, devenir ouvrier ou se marginaliser, squatter, pratiquer l'illégalisme, il sera toujours moins dominé qu'une femme noire ou un trans algérien. Ah oui, alors. En parlant d'hommes blancs, justement, parce qu'ils ont l'air de faire chouin-chouin un peu, hein, ce texte. Ils ont l'air de se plaindre beaucoup, de dire « Oh là là, c'est tellement dur !» Bref, on avait envie, ça c'est du coup un texte des antiracialisateurs, hein, et on avait envie de justement parler de privilèges blancs, c'est ça qui a l'air de les ennuyer. Alors, pour ça, il faut que je retrouve mes sources, hein, tout simplement. Voilà, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, alors le privilège blanc, mais qu'est-ce donc ? Alors on dit privilège blanc ou privilège de la peau blanche ? Eh bien c'est un privilège sociétal qui bénéficie aux personnes blanches par rapport à ce que vivent les non-blancs dans le même contexte social, politique ou économique. Des concepts académiques comme la Critical Race Theory et la blanchitude s'appuient sur le privilège blanc pour analyser l'impact du racisme sur les personnes de peau blanche. Ça va ?
Pour le moment, ça va, ça reste compréhensible.
Oui. Alors, cette question du privilège blanc et du débat entre ceux qui sont décrits comme des racialisateurs et les antiracialisateurs, qui sont... ces militants d'extrême gauche, ça se traduit dans des exemples précis dans les dernières années. C'est-à-dire que ceux qui se décrivent comme les antiracialisateurs se sont pas mal mobilisés autour d'événements organisés par et pour les personnes racisées pour défendre leurs droits. Ça a notamment été le cas autour des deux marches de la dignité qui sont organisées en 2013 et en 2015, où on a eu un certain nombre d'affiches et de textes qui sont sortis à ce moment-là pour décrier ces initiatives et accuser d'être des racialisateurs les personnes qui les organisaient. Donc c'est leur argument, c'est évidemment que parler de la race ou décrire la race en tant que catégorie sociale, c'est la faire exister et du coup c'est produire de la division dans le prolétariat. Donc c'est des milieux qui vont se baser sur une idée très ancrée de l'universalisme à la française, qui tend à effacer systématiquement, à ramener à un seul modèle, à un seul récit, un seul récit de lutte, hein, qui est celle de la lutte du prolétariat, toutes les luttes minoritaires, et ce qui frappe ici particulièrement, les luttes des personnes racisées. Donc, en plus de ce qui s'est passé autour des marges de la dignité, il y a eu, en 2016, une violente altercation dans une librairie de gauche à Marseille qui s'appelle Mille Babord, qui mobilisait un peu les mêmes arguments, donc qui avait organisé un débat autour de la question de la race, donc où les antiracialisateurs se réunissaient ensemble, entre blancs évidemment, pour discuter de ces vastes enjeux qui... divisait le prolétariat ou fragmentait la lutte. Et en fait, des camarades sont intervenus pour dire que ce débat était, mené de manière totalement fallacieuse. Et elles ont été taxées de racialisme. Et elles ont été agressées. Parce qu'elles étaient intervenues dans un débat qui visait à nier l'existence ou la pertinence de la catégorie de race.
Et donc, on va y revenir juste après, mais c'est dans ce contexte que le texte qu'on va parler tout juste après sur le fait de comparer transgenre et transracial va arriver dans les médias libres. Mais juste avant ça, on avait envie, pour aérer un peu toutes ces notions, de faire, passer une musique de Cazet, parce qu'elle fait toujours comme des leçons historiques, je trouve, dans ses morceaux, et du coup, là, justement, elle va parler de la construction de l'identité noire et l'identité blanche, un peu en miroir, ça s'appelle « Créature ratée ».
Thank you. ingénus, au rang des seigneurs ou dépourvus de génie. Grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peu avancée, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé, moteur d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont friands. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse, les os glacés placés devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.
Le fameux texte s'appelle « De la transgenre ». Bruce Kathleen Jenner, parce que c'était trop dur d'utiliser que son prénom féminin, n'est-ce pas ? À la transraciale Rachel Dolezal, pour les féministes et les identitaires raciaux américains, y aurait-il de bons et de moins bons trans ? Alors, voilà, c'est un... Alors, le titre est vraiment très traduit dans le contexte français, c'est pas du tout ça le titre en anglais. Enfin, pas du tout. En tout cas, il n'y a pas féministe et identitaire raciaux, du coup on voit bien qui est visé dans ce texte, puisque c'est un peu par les mêmes féministes et identitaires raciaux que ont été visées les personnes qui avaient interrompu la discussion à Mille Babord, par exemple. Et ce texte, il est écrit par Adolf Reed Jr., qui est un universitaire noir américain qui est très lutte des classes. Lutte des classes, lutte des classes. Le prolétariat avant tout. Le reste, c'est un peu trop de la diversion. Hein. Et voilà, alors justement, on va commencer par le titre. Mais qui est donc Kathleen Jenner et qui est donc Rachel Dolezal ? Alors Caitlyn Jenner, d'abord, c'est une animatrice américaine de télévision qui est connue pour être républicaine et dont la transition a été beaucoup énormément médiatisée en 2015.
Elle a fait la couverture de Vanity Fair dans une photo de Annie Leibovitz, qui était une manière de surmédiatiser son coming out, surtout parce que c'est ce qui était mis en scène dans cette couverture. Et le titre de ce numéro de Vanity Fair, c'est quand même la une, c'est énorme comme geste, c'était Call Me Caitlyn, donc appelez-moi Caitlyn. Et qui, voilà. C'était un numéro qui racontait la transition de cette personne qui était quand même connue dans le contexte médiatique états-unien avant pour avoir été dans tous les shows de télé autour de la famille Kardashian.
Et donc il y a Rachel Dolezal. Et Rachel Dolezal, c'est une ex, du coup. Elle était présidente, c'est ça, ex-présidente, de la section de Spokane, de la NAACP, c'est l'Association Nationale pour la Promotion des Personnes de Couleur. Et en 2015, sa famille médiatise le fait qu'elle est blanche, alors qu'elle se dit noire, à peau claire. Et donc, à ce moment-là, il y a eu plein de tout un tapage médiatique, etc. Et donc, ça tombe au même moment que la médiatisation de la transition de Caitlyn Jenner. Et c'est là, donc, qu'elle va faire l'analogie. Elle va se comparer, en fait, un peu à Caitlyn Jenner. Et du coup, elle va se défendre en disant, non, mais en fait, je suis transraciale. C'est ça, hein. Voilà, et donc, le texte. En gros, c'est vrai, on n'a pas pris des extraits, mais ce qu'on peut dire en résumé de ce texte, c'est, il est de toute manière, il est disponible sur Internet, c'est de dire que tout ça, c'est le libéralisme d'un côté comme de l'autre, que ce soit transgenre ou transracial, tout est libéralisme, et du coup, que tout est problématique finalement, et les uns et les autres, mais surtout. Pourquoi il y a cette analogie aussi dans le texte entre transgenre et transracial ? C'est une manière d'invalider les propos des personnes racisées, qui se revendiquent comme étant racisées et qui luttent contre le racisme. Parce qu'une partie de ces personnes sont aussi dans des soutiens, ou sont des personnes trans, ou sont en soutien en tout cas aux personnes trans, on parle de transgenre. Et donc là, le texte, il permet de dire « Ah ben alors, vous êtes d'accord qu'il y a des transgenres qui existent, mais par contre, quand il s'agit de transracial, là par contre, vous n'êtes pas d'accord. Bah pourtant, c'est la même chose, alors on voit pas pourquoi ça pose un problème dans un truc et pas dans l'autre. » Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit, et après, il finit par dire « De toute manière, tout ça, c'est du libéralisme, c'est de la merde, et ce qui est important, c'est la lutte des classes. » En résumé.
Alors, l'idée de cette analogie, c'est quelque chose qui tourne autour de la construction sociale, et donc du coup, c'est de partir de l'idée que si le genre et la race sont des constructions sociales, en gros, c'est la même chose. Alors, sur ce sujet-là, il y a une youtubeuse noire états-unienne trans qui s'appelle Cat Black, qui a fait une vidéo qui est hyper claire et qui est sous-titrée en français, qui est sur YouTube. Donc Cat Black, ça s'écrit K-A-T plus loin B-L-A-Q-U-E, et c'est une vidéo qui s'appelle Pourquoi Caitlyn Jenner n'est pas Rachel Dolezal, ou l'inverse, je me souviens plus. Donc c'est une vidéo dans laquelle elle revient sur ce parallèle. Alors elle dit plusieurs choses dans cette vidéo, hein. Donc la première, c'est de différencier les bases de ces constructions sociales que sont le genre et la race. Elle dit bien que si les deux sont des constructions, elles ne sont pas basées sur les mêmes facteurs. Et il y a la notion de généalogie, ou de ce qui se transmet d'une génération à l'autre dans la catégorie de race, qui n'existe pas dans la question du genre. Donc en fait, ce parallèle, même s'il voulait accorder de la foi à des déterminismes biologiques, il est de toute façon abusif. Alors, elle souligne aussi que c'est une rhétorique qui est particulièrement transphobe, parce que ce qui se dégage de tout ce qui se dit autour de Rachel Dolezal et par extension de Caitlyn Jenner, c'est là où cet article et cette argumentation sont à la fois racistes et à la fois transphobes, c'est que en gros, puisque Rachel Dolezal est dans un mensonge, elle ment sur qui elle ment sur son identité, eh bien, Caitlyn Jenner aussi. Donc ça revient à dire pour certaines personnes que, de toute façon, les personnes trans sont menteuses, et le but de la transition, c'est de mentir ou de cacher aux personnes de son entourage qui on est. Donc c'est un argumentaire qui est un parallèle qui, au final, ressort comme étant particulièrement transphobe. Et moi, il y avait une autre idée que je trouvais vraiment intéressante et qui est très développée par Cat Black. Ça tourne autour de la notion d'entitlement en anglais. Alors, c'est une notion qui se traduit pas hyper bien en français, mais il y a en français, on utiliserait l'expression s'arroger le droit de ou s'autoriser à faire quelque chose. Et en fait, Cat Black, elle dit que ce qui est notable dans l'histoire de Rachel Dolezal, c'est que ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle revendique comme une transition de race, c'est pas accessible à tout le monde. C'est disponible pour certaines personnes seulement, et particulièrement pour les personnes blanches. Ce que Cat Black souligne, c'est que Rachel Dolezal, en disant qu'elle a transitionné de race, elle fait complètement usage du privilège de sa blanchité, de sa capacité à naviguer un peu tous les espaces qu'elle veut, de la manière dont elle veut, parce qu'en fait, elle a tiré énormément de bénéfices de cette transition. Ce que Cat Black souligne, c'est le rôle qu'elle avait dans cette association. C'est-à-dire qu'elle a donné des cours, Rachel Dolezal, sur l'histoire politique des groupes afro-américains. Elle a été reconnue pour ça, elle a été payée pour ça. Là où des femmes noires ne sont pas à ces postes-là. Et en fait, Rachel Dolezal, elle a pris la place, en quelque sorte, et pris la parole à une place qui était pas la sienne. On reviendra sans doute après sur cette histoire de bénéfices. Mais il faut tout de suite noter que cette association-là, qui est basée à Spokane, aux États-Unis, c'est une association qui est mixte, en fait. Et ce qui est très étrange, c'est que Rachel Dolezal, elle a eu besoin de dire qu'elle était noire pour y trouver une place, en fait. Et du coup, c'est quand même hyper questionnant qu'elle n'ait pas réussi à trouver une place pour soutenir les actions de cet assaut tout en étant blanche. Et qu'elle a eu besoin de passer par cette... ce récit du transracialisme.
Et donc maintenant, on va voir un peu à partir d'un autre texte qui s'appelle « Hood Feminism ». En anglais, je pense qu'il serait quand même mieux en espagnol, mais bon. En fait, c'est une personne noire et trans, en fait, qui donne différents arguments aussi pour pouvoir un peu voir un peu cette différence concrètement entre quelle est la différence entre transracial et transgenre. La race, c'est plutôt quelque chose qui est vécu et est déterminé différemment du genre. C'est-à-dire dans le sens où, par la race, qui est comme une représentation, c'est déterminé par des ancêtres qui sont différents. Alors que le genre, il va pas être déterminé par des ancêtres. Si on a un ancêtre biologique, historique, il aura pas d'effet sur le genre, en fait. Alors que, par contre, il aura bien des effets sur la race, d'un point de vue de la représentation. Il y a déjà ce côté-là, et puis il y a aussi ce côté aussi à un moment de... qui change de race. Quand, par exemple, ils ont créé un espèce de groupe Facebook, ils l'ont appelé Oreo. Mine de rien, Oreo, c'était aussi le nom d'un bouquin d'une meuf qui est noire et qui est d'origine juive. Et eux, en fait, ils considèrent que s'ils ont cette envie-là, de devenir noir ou ce qu'ils veulent, en fait, ils peuvent le faire. Mais sans vraiment se poser la question de justement cette complexité de privilège, de revenir quand même sur cette notion quand même de privilège blanc, c'est-à-dire de pouvoir aller dans les différentes sphères sans vraiment se poser la question d'histoire ou des traumatismes des personnes qui ont pu avoir face à la migration ou des choses comme ça. Juste à se dire, ah bah c'est bon, on est là. Donc il y a quand même bien une différence entre la transition de genre et la transition de race. C'est quand même pas du tout les mêmes... point, concrètement, quoi. Et c'est pas une identité, c'est juste une extension en fait du privilège blanc. On peut pas parler d'une identité et on peut même juste se dire quand même en soi qu'est-ce qu'on porte comme valeur ou qu'est-ce qu'on porte comme idée politique quand on fait ça. C'est pourquoi en fait. Est-ce que c'est quelque chose de néocolonialiste? Est-ce que c'est quoi? Donc voilà, ce texte est très très bien. Donc voilà où c'est que nous en sommes à peu près. Et on va se faire une petite pause musicale.
Et oui, on va s'écouter Stevie Wonder, Superstition. We'll be right back.
Et alors, on va revenir un peu sur une chose un peu de base, très pragmatique un peu dans ce côté-là, quoi. C'est vraiment une forme, en fait, d'utiliser, en fait, le concept quand même de transracial versus transgenre pour vraiment alimenter quand même des théories complètement racistes et tout ce qu'on veut. C'est quand même quelque chose qui est juste une forme de manipulation quand même des vécus, de toute forme de personnes, tant des personnes racisées que des personnes qui sont trans. C'est juste une forme de manipulation. Et c'est juste, en fait, un peu utiliser un peu ce qu'on appelle l'ordre patriarcal et la suprématie blanche, qu'on peut aussi appeler blanc-triarcat. Et juste pour arriver, en fait, à ses fins et juste asseoir encore un peu plus un privilège blanc. Donc bon, la base de la base, c'est ça, quoi. Enfin, c'est... Concrètement, ça peut être un peu ça, quoi. Mais voyons voir les analogies.
Les analogies. Eh bien, ben pour dire que justement, de faire cette analogie entre race et genre, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est une manipulation. En tout cas, c'est une manière de pas faire comprendre des réalités distinctes, mais au contraire d'effacer la réalité, de faire une confusion complète. Et du coup d'être plus dans une forme un peu de populisme, de dire ah bah voilà, hop, abracadabra, on a deux choses et on va dire que c'est la même chose. Et par exemple, pour être un peu plus clair, j'ai regardé une vidéo d'une personne trans qui parle du coup de cette histoire et qui dit bon alors voilà, ce qu'on nous dit c'est qu'on a deux concepts, deux constructions sociales. Donc finalement, on a deux constructions sociales, donc finalement c'est les mêmes. On peut en faire la même chose. Alors elle dit, bah, par exemple, c'est comme si je prenais une pomme et une poire, je disais, bah voilà, on a deux fruits. Bon, bah on se rend bien compte que la pomme et la poire, elles sont différentes en fait. Même si c'est effectivement deux fruits, elles appartiennent à la même catégorie de fruits, pour autant, on se rend bien compte qu'elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas le même goût, elles n'ont pas la même texture. Et ben voilà, c'est pareil avec les histoires de catégories sociales, de constructions sociales. C'est qu'on peut dire qu'effectivement, la race et le genre sont des constructions sociales. Pour autant, elles viennent pas des mêmes endroits. Elles ont pas été construites pour les mêmes raisons. Elles veulent pas dire les mêmes choses. Voilà.
Mais c'est quoi une construction sociale ?
Alors, une construction sociale. Oh là là, c'est dur ça pour moi. Eh bien, ça veut dire que... Ah. En tout cas, comment je l'entends ? Moi, je peux résumer comment je l'entends, c'est-à-dire que à un moment donné, si je prends le genre, la construction sociale, elle vient du fait que c'est les rapports sociaux, c'est ce qui existe comme rapports sociaux, comme c'est que c'est, je sais pas comment dire, c'est que c'est quelque chose qui est pas figé, qui est pas biologique, qui est pas inné, c'est quelque chose qui va être acquis par le fait qu'on vit dans une société et que du coup c'est quelque chose qui est créé par la société et que comme on est dans cette société, ben on est rempli de ces trucs-là de rapports sociaux et c'est ça qui va nous construire. C'est ça, enfin moi je le dis comme ça.
Ouais, c'est comme une imprégnation en fait de toutes les personnes ou tout ce qui se passe autour de nous par lequel ça rentre en fait.
Ouais, et puis c'est quelque chose qui... Enfin, ces constructions-là, elles passent par des choses qui sont matériellement très tangibles, quoi. C'est pas du tout des constructions, ça veut pas dire du tout que c'est une idée ou un truc juste de discours. Au contraire, en fait, ce qu'on décrit comme des constructions sociales, ça passe par des institutions, ça passe par des rapports de force, ça passe par des rapports de violence. D'ailleurs, c'est ce qui confond toujours un peu Rachel Dolezal quand on l'interroge, parce qu'elle a beaucoup été interrogée sur... son récit, là, son histoire de transraciale. On lui a demandé, mais... Enfin, est-ce que tu penses que ton parcours est celui d'une femme noire ? Est-ce que tu penses que tu as le même parcours qu'une femme noire ? Ce à quoi elle répond oui, parce qu'il se produit un espèce de truc très bizarre quand elle répond à ça. C'est qu'elle répond pas du tout sur le même plan. Puisque ce qu'elle dit, c'est que la blanchité, c'est un état d'esprit, donc du coup, le fait d'être noir aussi, et du coup, elle se défait complètement de cette de la réalité matérielle de ces constructions sociales, pour rester dans un truc très très interne, très c'est mon expérience vécue, c'est la façon dont je m'identifie, et c'est une façon de faire le récit de soi. Ce qu'elle néglige de dire là-dedans, c'est qu'il y a un vrai enjeu, je trouve, enfin, en gros, c'est à qui profite le crime, quoi, à qui en bénéficie en fait de ce récit ou de ces analogies-là. Et en effet, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça alimente complètement. C'est basé sur le privilège blanc et ça l'alimente. Parce que Rachel Dolezal, elle, comme on le disait tout à l'heure, elle est reconnue pour ce qu'elle a fait. Elle accumule un capital politique, culturel, social à travers une position qu'elle occupe de manière abusive. Du coup, il y a quand même une rétribution très matérielle au final de ce geste-là, de prendre la place qu'elle a prise. C'est une vraie manière de capitaliser sur des expériences noires en l'occurrence, sans en prendre les parties les plus difficiles. On assume, en fait, c'est en prendre tout ce qu'il y a de capitalisable pour en profiter et sans récolter le vécu douloureux, le traumatisme et la violence sociale.
Oui, et c'est pas aussi prendre en considération, si on prend vraiment des choses pragmatiques, c'est vraiment les choses de base comme l'accès au travail, l'accès au logement, la discrimination dans les hôpitaux, etc. Mais en même temps, elle vient d'une classe sociale quand même de ce qui était un peu vu. C'est pas n'importe qui aussi qui le fait. Par exemple, c'est quand même des personnes blanches de classe moyenne, plutôt sup, de ce qui a été un peu vu. Et c'est aussi intéressant aussi de voir aussi un peu ce côté-là, je trouve. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, comme un vendredi sur deux avec On n'est pas des cadeaux, et on continue l'émission sur transgenre versus transracial.
Alors on en est où ?
Alors on en est à... On vient de voir un peu qu'est-ce que ça voulait dire, et un peu la notion de capital aussi, de prendre aussi cette notion de capital comme quoi une personne qui transitionne racialement, je sais même pas comment on peut vraiment l'appeler, des trans... Enfin ouais, parce que c'est même pas transracial vu que c'est autre chose. Qui alimente en fait encore des privilèges qu'elle a déjà eu à la base en fait, dans sa socialisation, etc. Et ça serait intéressant aussi qu'on revienne aussi un peu, parce que dans cette notion, il y a vachement la notion de white passing et de passing aussi chez les personnes trans. Et d'où ça vient l'un et l'autre, mais en même temps, pourquoi c'est pas les mêmes choses? Parce qu'effectivement, il y a des termes qui peuvent être utilisés dans un contexte et dans un autre, mais ça veut pas dire, comme tu disais, les mêmes. C'est pas les mêmes représentations de contexte aussi. Donc c'est pas mal aussi de le voir.
Alors le white passing, sachant que le passing pour les personnes trans a été inspiré du passing des personnes racisées, en tout cas. Ça vient là. Du coup, le white passing, c'est juste que dans les années 60, il y a une codification raciale qui classait les citoyens aux États-Unis, qui s'appelait le one drop rule, la règle de la goutte unique, qui faisait que si on avait une personne, un seul ancêtre noir, aussi éloigné qu'il soit, eh ben, on pouvait être considéré officiellement comme une personne noire. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a des personnes qui, physiquement, enfin, en tout cas, avaient ce white passing, étaient prises pour des blancs, mais qui étaient considérés et qui étaient des noirs. Et du coup, voilà pour le white passing. Ça fait que, voilà. C'était... Mais en tout cas, dans l'idée du passing, du white passing, il n'y a pas une idée de transition. Il y a des personnes qui sont prises pour des blancs. Voilà. Et pour ce qui est des personnes trans, alors le terme passing, il est assez décrié, en tout cas il est questionné dans les milieux trans, parce que ça, au départ c'était, on disait juste passing, on disait, ah, est-ce que t'as un bon passing, est-ce que t'as un mauvais passing, enfin, et puis à un moment donné il y a eu une critique là-dessus en disant, oui mais en fait, ça fait comme si, par exemple, si je dis, ah, j'ai un mauvais passing d'homme, ça voudrait dire que je suis toujours en train d'essayer d'être. Et à un moment donné, il y a des, notamment des femmes trans qui ont vraiment porté fort le truc de « mais nous sommes des femmes, nous sommes des femmes trans, mais nous sommes des femmes ». Et ce qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas des femmes cis. Et donc, on a fini par parler de cis-passing pour dire ben, « en fait, c'est le fait d'être prise pour des personnes cis qui vient faire ce passing, mais pas le fait d'être femme ou homme ». Voilà, pour ces histoires de passing, mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'un est hérité de l'autre, mais qu'on parle de choses différentes, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pareil, on peut pas faire une analogie, on peut... Bien sûr que les milieux sont perméables, et que ce qui nous arrive à des moments, on peut en faire des parallèles, et on peut se les expliquer comme ça, avec des histoires de parallèles, mais ça veut pas dire que tout est la même chose, en fait. Ça veut dire que les choses sont différentes, mais qu'à des moments, on passe par des choses qui résonnent en nous pour différentes raisons.
Et ben voilà, c'était super. On espère que vous avez bien compris. Non, maintenant, ça serait bien quand même de refaire quand même un petit retour aussi sur des bases un peu politiques, en fait. C'est que ces notions d'identité, ce dépassement identitaire, il n'est pas anodin.
Et oui, effectivement.
Oui, effectivement. J'ai perdu le fil parce que j'ai une tête qui est passée devant moi, c'est
ouais,
pour ça. Ouais,
maintenant, c'est qu'on avait envie de réaffirmer des bases matérialistes.
Oui, c'était ça. C'était exactement ça.
Du coup, de réaffirmer que, bah, en fait, on vit dans une société où il y a des rapports sociaux, où on est dans des réalités sociales. On n'est pas des individus qui se construisent en dehors de ces rapports sociaux et de ces réalités sociales. On existe bien dans cette société. Ça... Enfin, c'est ça le néolibéralisme. Pour moi, l'arnaque du néolibéralisme, c'est de nous faire croire qu'on peut s'autoproduire, se construire de rien. Vous voyez ?
Oui, comme le slogan du self-made man. Là.
Voilà, exactement.
Quelqu'un s'est fait tout
seul. C'est ça. Voilà, oui. Se faire tout seul. Et ça, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire.
C'est croire en la main invisible d'Adam Smith, quoi. C'est un peu ce principe-là, à la base. Ah oui, il faut que j'explique ça.
Ou alors, on peut renvoyer à d'autres émissions, on en a parlé.
Oui, c'est ça.
Sur le néolibéralisme, c'est Trigger, où on parle de cette définition d'Adam Smith et du néolibéralisme, du libéralisme, en fait.
C'est ça, où on considère que c'est comme une transcendance qui est au-dessus de nous et qui gère tout, et qu'en fait, ça fait qu'on peut devenir qui on veut, quand on veut. Mais, dans soi, c'est pas une critique de... C'est bien de dépasser le déterminisme, c'est pas ça. Mais c'est juste le déterminisme pourquoi, avec qui et comment, en fait. Et pourquoi faire. Enfin, il y a aussi peut-être quand même des questions un peu de base, un peu à se poser, quoi. Puis c'est pour revenir aussi sur... en opposant quand même transracial, transgenre, pour juste se dire « Ah, c'est cool, en fait. Vous voyez, on montre bien, en fait, votre faiblesse de théorie. Parce qu'en fait, comme ça, regardez, en fait, vous êtes... si vous assumez ça, c'est que vous êtes et raciste, en fait, vous allez être et transphobe vis-à-vis de vos potes, ça fait quand même ce truc, en fait, de... Non, en fait, l'objectif, il est pas là, c'est quelle solidarité on crée et quelles questions aussi on pose, quand même, d'actions concrètes, quoi. C'est-à-dire, à qui profite... Ouais, moi, j'aimais bien cette question, à qui profite le crime, en fait, c'est quand même pas mal, quoi. Dans cette notion-là, c'est pas mal, quoi.
Ouais, c'est le... Sur cette question des solidarités, moi, j'avoue, c'est le cas à Rachel Dolezal, moi, je le trouve hyper énigmatique. Évidemment, il y a un truc que personne ne s'explique, c'est logique, mais je pense que ça, il faut vraiment s'en servir pour interroger ce qui découle logiquement du privilège blanc et ce qui s'y articule dans l'expérience de Rachel Dolezal, c'est la culpabilité blanche, quoi, qui fait qu'on dépasse pas du tout. Qui bloque en fait la question de la solidarité parce que c'est transcrire des phénomènes politiques et des phénomènes analysables dans une grille de lecture parfaitement matérialiste et sociale dans le registre émotionnel, moral, et du coup ça construit cette espèce de ce qui était évoqué dans le texte, la culpabilité de l'homme blanc. Oui, mais cette culpabilité, en fait, politiquement, ça vaut rien, en fait. Ça construit aucune forme de solidarité, et au contraire, ça a plutôt tendance à suspendre ces solidarités, à les empêcher d'advenir, que de faire avancer quoi que ce soit. Et je pense que cette notion-là, dans cette façon de s'auto-justifier dans un parcours transracial, entre guillemets, c'est hyper important.
Oui, puis c'est quand même fou. Enfin, moi, ce que je trouve fou, c'est cette culpabilité, elle fait que ah ben on a des privilèges et alors là on sait pas quoi en faire, mais c'est quand même fou. Enfin je veux dire, on peut en faire profiter grave de monde, on peut politiser les choses, en tout cas s'en servir pour à un moment donné bah pouvoir redistribuer des choses, faire, enfin c'est ça la solidarité. Et du coup de se dire oulala, oh, je me sens trop coupable et du coup j'ai qu'à mentir et dire ce que je suis pas ou j'en sais rien, ou en tout cas faire une petite pirouette et hop, faire en sorte que hop là j'ai oublié ma culpabilité, c'est quand même un peu dingue.
On pourrait écouter ce que Cazel dit par rapport à Exhibit B.
Ouais, tout à fait. Alors, Cazel dit...
Leurs conneries, ils les font tous les jours, de toutes les manières, tous les jours. C'est juste leur rappeler que nous on est là et qu'ils font des trucs de blanc en fait. Ça c'est un vrai truc de blanc. C'est les blancs qui font les blancs, c'est pas tous les blancs qui agissent comme des blancs. Il y a des blancs qui se déterminent en tant que blancs, tu vois, et c'est une forme d'intelligence d'ailleurs, ils sont là, ils sont de ce côté-là. Et puis il y a les blancs qui font les blancs, mais ils sont à l'intérieur, ils sont dans la salle. Voilà, ils sont en train de regarder des noirs enchaînés. Je sais pas, normalement, voilà. Ça leur pose pas, ils se posent pas la question de savoir ce que ça veut dire.
Parce qu'il y a des gens qui vont commenter. Donc une dernière question, on dit tout de suite, si ça avait été un noir qui avait fait ça, vous seriez là aussi ?
Peut-être que non. C'est différent si c'est un noir qui le fait. Et puis surtout, ce que j'aurais aimé, en fait, si tu veux parler d'esclavage, aujourd'hui on est en 2014, tu peux pas parler d'esclavage en montrant que l'esclave. Faut montrer aussi l'esclavagiste. Si dans la pièce c'était un blanc et il y avait un noir, des noirs enchaînés et des blancs, je serais pas là. Là, faut que le blanc, il se détermine en tant que blanc. Il était là. L'esclavage, ça s'est pas fait tout seul, on s'est pas enchaîné tout seul. Et ils ont du mal à se projeter, ils ont du mal à se déterminer en tant que blanc. Moi, c'est comme son expo, là. Il y a un noir en cage. Si tu mets un blanc à côté avec un fouet, je dis OK, c'est équilibré. Mais c'est jamais le cas. C'est que les blancs ont du mal à se déterminer, à se projeter dans l'esclavage.
Je crois que c'est clair. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci.
Bah, je crois que c'était clair, effectivement. Ouais. Donc voilà, c'était pour conclure l'émission.
Et bah ouais. Eh ben, on espère que ça a été clair pour tout le monde.
Que la clarté a bien transparu dans cette émission. Transparu, ouais, transparu, ça doit être correct.
Je crois que ça marche.
Ouais, ça marche, ouais. C'est ça. À la fin de l'émission, on sait plus trop comment parler vu que les gens utilisent tous les mots pour tout et n'importe quoi. Alors c'est sûr que ça devient compliqué à un moment. Eh ben, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2. On va passer le micro à l'émission d'après. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine fois.
Eh ben ouais, la semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres.
Sur la cuisine.
Eh ben voilà.
À toi bientôt.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Bye.